création
on air.
Creation on air.
Bonsoir. Il va falloir se préparer. L'espace est modifié. Après la catastrophe, il a été décidé de vous protéger en montant de hauts murs. Impossible d'imaginer ce qui se passe de l'autre côté. Vos enfants et petits-enfants se sont habitués. Depuis 7 générations, ils vivent dans cette cité cernée d'une muraille qui les sépare de la nature. Projetez-vous et imaginez. De cette cité sans nature, un homme s'est échappé. Il a récupéré dans une cabane de quoi vous raconter ce qui se passera depuis une station émettrice éphémère. Tendez l'oreille, ne craignez rien, écoutez sans peur et sans jugement. Retour dans les bois, par Franck Thoraval et Gilles Mardy-Rossian, création On Air.
Retour dans les bois. Je m'adresse à vous depuis un sanctuaire. À tous ceux qui pourraient détenir une radio à dynamo, dans la cité ou alentour. Je ne sais pas à quelle distance je peux émettre, ni ce que vous-même savez de ce que je viens à peine de découvrir. Je vivais dans la cité, où j'espère vous m'entendez. J'y suis né comme tous les hommes. Enfin, c'est ce que je pensais jusque-là. Et vous qui habitez la forêt, vous savez peut-être que la cité est ceinturée d'une grande muraille. À l'intérieur, la vie est sans fracas, mais pas sans vacarme, et sous contrôle. La muraille englobe les zones agricoles et industrielles. Depuis ses hauteurs, on aperçoit une étendue infinie qu'on appelle la nature. On nous dit que l'homme n'y est plus le bienvenu. J'expliquerai plus tard où et comment je suis arrivé là. Mais je suis trop impatient de vous faire partager ma découverte, une collection de disques noirs sur lesquels sont gravés des sons témoignant de l'état du monde avant la grande catastrophe, il y a 7 générations. Ils sont datés de 2016, même si cela n'a plus vraiment de sens. Une époque où le vocabulaire prohibé dans la cité, comme chasse, prédation, semble ordinaire. Écoutez celui-ci, qui témoigne d'un monde disparu et à peine croyable.
En 1516, le récit de voyage de Raphaël Itlaudé, recueilli par Thomas More, fait peu référence aux relations que les hommes ont établies avec les animaux, si ce n'est ceci. Considérant la chasse comme un exercice indigne des hommes libres, les utopiens le réservent à leurs bouchers, dont le métier est pratiqué par des esclaves. Ils considèrent même la chasse comme l'échelon le plus bas de la boucherie, les autres branches étant plus utiles et plus honorables, puisqu'elles rendent service et qu'elles ne détruisent d'êtres vivants que pour raison de nécessité. Le chasseur, au contraire, se complaît gratuitement à la mort et au dépecement d'une pauvre petite bête. En voici des nouvelles plus récentes.
Alors Martin, tu reviens d'un périple sur l'île d'Utopia.
Oui, c'était une période un peu particulière pour moi. J'étais épuisé, j'avais envie de me dépayser, de découvrir autre chose. Et pas forcément de découvrir un autre paysage, mais plus découvrir un autre paysage moral, on va dire. J'ai été contacté par un habitant d'Utopia. Comme souvent, les habitants d'Utopia sont amenés à quitter leur île pour se répandre dans le monde et partager leurs idées. Et il me propose de l'accompagner. Donc on prend un avion courrier, je peux pas trop donner de détails évidemment, mais on prend ensuite un petit coucou, on prend un deuxième petit coucou, on prend un, un bateau, ensuite une petite goélette, et on finit par aborder sur les rives d'Utopia. Évidemment, cette île a une histoire qui est discutée, qui est sujette à caution. Donc Thomas m'a raconté une autre histoire que celle de Thomas More sur l'origine d'Utopia. C'est-à-dire qu'au départ, cette île ne s'appelait pas Utopia, elle s'appelait Abraxa. Et elle était peuplée par une population avide de consommation. Il y avait une sorte d'agriculture intensive, d'élevage intensif. L'agriculture et l'élevage intensif prenaient la majeure partie de l'île. On déboisait à tout va. Et donc, finalement, cette île a fini par succomber à sa population humaine. Et très vite, en fait, cette île a été abandonnée. Elle a gagné, par ailleurs, une réputation d'île maudite. C'est l'île qui avait été gâchée par sa population humaine. Alors, ensuite, c'est passé quelques temps, 100 ans, 200 ans, et la nature a repris un peu ses droits, a recommencé à régner sur l'île. Et c'est là que sont intervenus les utopiens. Les utopiens, d'après ce qu'on m'a raconté, et là encore la version diffère de celle de Thomas More, les utopiens, tout simplement, c'était des groupes de réfugiés. C'était des réfugiés politiques, religieux, des gens qui étaient pourchassés, massacrés dans leur pays, et qui se sont rassemblés et qui ont cherché ensemble un lieu d'accueil. Et le seul lieu d'accueil qui leur était ouvert, finalement, c'était cette île qui avait une réputation d'île maudite. Mais il leur a fallu un certain temps, évidemment, pour s'établir, pour construire une société, avec déjà cette idée d'éviter la violence et de ne pas reproduire les erreurs qui avaient conduit le reste du monde à s'en prendre à eux. Donc la question du rapport aux animaux a tout de suite été présente, et d'une manière assez particulière, parce que c'est venu des enfants. On raconte que c'est un enfant qui s'était pris d'amitié pour un mouton, qui, voyant son père mener le mouton à l'abattage, s'est mis à pleurer et a demandé à son père d'épargner l'animal. Ça a donné l'idée à d'autres enfants de réclamer la même chose pour leurs autres animaux qui étaient finalement des animaux de compagnie. Parce qu'à Utopia, il faut le savoir, la ville est mélangée à la nature, il n'y a pas de frontière franche en fait entre ville et nature. Donc les animaux étaient dans les rues, dans les maisons. Donc il y a eu un mouvement, peu à peu comme ça, au départ désordonné, mais de plus en plus structuré, d'enfants réclamant qu'on cesse de tuer les animaux pour les manger. Parce qu'il faut savoir qu'à Utopia, les enfants, on voit au chapitre et ne subissent pas de domination. C'est-à-dire que dès l'enfance, on apprend aux enfants à communiquer avec les animaux. Ils se parlent, on apprend à repérer dans le geste d'un mouton, dans l'attitude d'un loir, d'un oiseau et tout ça. On apprend à être en relation avec les animaux. Et les animaux ont d'une certaine manière rendu domestiques les êtres humains à leur égard. Voilà. Alors ça va aussi beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'on considère qu'il est juste de prendre soin des animaux, mais pas simplement des animaux domestiques, comme les chats, les chiens, les moutons, les vaches, mais on considère que voilà, si une grenouille est blessée, si un autre animal sauvage, un sanglier est blessé, on ne va pas laisser la nature faire son travail. On va aller à l'encontre de la nature et on va soigner cet animal sauvage blessé. Un animal sauvage, ce n'est pas un animal qu'on va laisser mourir si on peut le soigner. Et c'est la même chose pour les épidémies, c'est-à-dire que régulièrement, des épidémies, comme partout, atteignent les animaux sauvages, et les utopiens ont à cœur de sauver les animaux sauvages de ces épidémies. Il n'y a pas de fascination pour la nature, on ne va pas laisser une colonie d'étourneaux mourir à cause d'un virus de grippe aviaire, par exemple. On va soigner les animaux, on va en prendre soin.
Comment fonctionne aujourd'hui l'île d'Utopia? Quel est son rapport à la question de la prédation? Est-ce que ce mot existe même encore dans leur langage?
Oui, alors évidemment, la prédation existe toujours sur l'île d'Utopia, c'est-à-dire qu'il y a des animaux prédateurs qui mangent des herbivores. C'est une question qui est en débat dans la société, parce que la prédation comme morale, comme philosophie récupérée par les êtres humains pour valoriser des conduites violentes et très critiquées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une fascination pour les prédateurs. Et une partie des utopiens voudrait faire un sort à la prédation, c'est-à-dire empêcher les prédateurs de tuer leur proie. La solution qui a été proposée, c'est de contrôler le nombre de prédateurs, c'est-à-dire que l'île d'Utopia est très forte en médecine des plantes, en herboristerie, Et donc l'idée, c'était de donner une contraception dans de la nourriture qu'on laisserait dans la forêt pour que les prédateurs ne puissent pas se reproduire. Donc faire baisser le nombre de prédateurs sur l'île. Et ainsi même, laisser en vie le maximum d'herbivores. Alors, aujourd'hui, ça c'était il y a un certain temps, aujourd'hui on opère aussi certains animaux. Et pour les Éthiopiens, il vaut mieux que les vaches soient empêchées de donner naissance à des veaux plutôt que de tuer ces veaux. Voilà, la contraception est toujours mieux que la mort. D'autres Éthiopiens pensent que les renards, toutes sortes de prédateurs, les oiseaux de proie, ont leur place sur l'île et ce serait dommage de se placer de leur présence. Mais ils veulent travailler à modifier génétiquement les espèces de prédateurs pour que les prédateurs deviennent des herbivores. Leur rêve, voilà, ce serait de voir ce renard, plutôt que de se jeter sur un lièvre, de se jeter sur une aubergine ou sur un ananas ou sur une papaye. Mais voilà, tout le monde n'est pas d'accord sur cette question. La société éthiopienne est une société en débat. Et donc voilà, c'est une réflexion qui est présente en tout cas. Et une grande découverte pour moi, ça a été de voir que, évidemment, comme les éthiopiens se passent de viande animale et de produits animaux, c'est-à-dire qu'ils se passent de lait et d'œufs, c'est un peuple qui a développé la gastronomie végétale à un point qui est proprement incroyable. Ce sont devenus des alchimistes, et avec des légumineuses, avec des céréales, avec des fruits, avec des légumes, avec des graines, ils arrivent à faire des plats qui sont absolument succulents. J'ai l'impression que sur Utopia, tous les enfants, toutes les femmes et tous les hommes sont à la fois cuisiniers et philosophes. Donc ils ont une très grande maîtrise de la cuisine végétale, qui me fait dire que cette cuisine est infiniment supérieure à la cuisine carnée. Alors évidemment, le passage d'une cuisine carnée à une gastronomie végétale a été compliqué parce que c'est un peuple qui a eu aussi des difficultés avec cette nourriture végétale, parce que les premiers temps, des utopiens sont tombés malades et très vite a été fait le diagnostic, c'est que dans la viande, il y a une vitamine qui s'appelle la vitamine B12 qu'on ne trouve pas dans les graines végétales, qui est indispensable pour notre bonne santé. Donc pendant quelques siècles, les utopiens ont essayé de causer le moins de mal en prenant cette vitamine B12 dans les coquillages, les mollusques et les huîtres, qui sont en quantité phénoménale sur les côtes d'Utopia. C'était une manière de se nourrir tout en faisant le moins de mal possible aux animaux, parce que les huîtres et les moules n'ont pas de système nerveux. Et à force de recherche, ils ont réussi à produire même cette vitamine B12 dans des cultures de bactéries. Et ils ont pu définitivement se passer de produits animaux dans leur alimentation. Le but des Éthiopiens, c'est de rester cachés, parce qu'ils ne voudraient pas voir surgir des hordes de touristes ou des envahisseurs. C'est ils veulent rester cachés du reste du monde, mais ils veulent apporter leur découverte et changer l'humanité pour que cesse le saccage de la planète et cesse le massacre des animaux. Donc effectivement, on trouve des Éthiopiens à l'origine de beaucoup de mouvements de non-violence et à l'origine de mouvements animalistes, vegan et végétariens.
C'est quoi ça, Loulou ? Viens voir ici. Regarde, qu'est-ce qu'il y a là ? Viens ici. Ici. Prends l'eau, prends l'eau. Mais donc ça a besoin de courir, ces chiens-là. Mais ils ont besoin, quoi, de se défouler. Sinon, on ressent dans leur comportement. Ils vont être... Ils vont tourner en rond, ils vont s'ennuyer. Ouais, oui, mais là, il a...
Il bouge trop, d'accord.
Là, il est un peu foufou, là. C'est vrai que c'est son moment, il est très heureux. Je l'habitue aussi à le caresser pendant qu'il mange, parce que s'il y a un enfant, et je suis pas dans, le coin, il y a un enfant qui le caresse et ça tourne mal, ça reste quand même un animal. Donc la nourriture et l'animal, c'est quelque chose d'important. Ouais. C'est quand il a des os. Des fois, je lui donne des os, là, il faut faire attention. Je veux pas qu'il y ait d'enfant à côté, parce que... Un os, c'est beaucoup plus... C'est autre chose pour lui. C'est une récompense. Donc, sa récompense, il veut profiter tout seul. Il veut pas qu'il y ait quelqu'un.
Ah,
donc c'est... Puis quand il en a marre, il va le cacher dans un coin et puis il le récupère plus tard. Quand il en a marre...
Les premiers hominidés descendus des arbres il y a plus de 6 millions d'années, partagent leur territoire avec des herbivores et sont les proies de grands prédateurs. La découverte des outils, il y a 2 millions d'années, vont les amener à devenir eux-mêmes des prédateurs.
Il y a de ça plusieurs lunes, avant mon voyage, l'un de ces individus suspects qu'on croise parfois au pied des murailles dans la cité est sorti de la pénombre et m'a proposé ce qu'il appelait un steak. Il m'a fait sentir l'odeur âcre du sang, du chevreuil, m'a-t-il dit. D'après ses descriptions, je pensais avoir déjà vu une image de cet animal dans un livre qui circule sous le manteau. Tant les animaux sont tabous dans la cité. Mais pourquoi dépenser de telles sommes pour manger un animal ? Toutes nos vivendas me suffisaient au quotidien. D'après le contrebandier, l'homme d'avant la grande catastrophe mangeait de la carne. C'est ce que confirment ces disques noirs.
Monsieur Jouventin, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est un éthologue ?
Alors, l'éthologie, c'est la science du comportement animal, et éventuellement humain, mais surtout animal. L'homme étant considéré comme un animal.
L'homme est un primate ?
Pour parler clair, un singe, spécial, très original, sans doute, mais ce qui fait son originalité, qui n'est jamais dit, c'est le seul primate, la seule espèce de primate, qui s'est spécialisée dans la chasse au gibier en groupe, c'est-à-dire l'équivalent des loups. Et donc on est devenu un super prédateur, bien plus efficace qu'un loup, mais il n'en reste pas moins qu'on est convergent écologiquement, c'est-à-dire qu'on occupe la même niche écologique, mais on y est arrivé par des moyens différents. Et on est le seul primate. Tous les autres primates sont soit des frugivores, insectivores, soit à la rigueur des chasseurs, parfois occasionnellement de petits gibiers ou d'insectes, mais ils ne font pas ça d'une manière systématique, organisée, coordonnée, altruiste, sociale, comme les loups. Et donc, en fin de compte, on voit déjà l'origine de la prédation chez le chimpanzé, parce qu'ils sont très prédateurs, il n'y a pas de doute, ils mangent de la viande, mais il n'y a d'une part pas grande coordination pour attraper les proies, et deuxièmement, il n'y a pas beaucoup de partage. Alors que par contre, dans les espèces très sociables, il y a d'une part une technique très sophistiquée, partage des tâches, par exemple les loups, tout le monde obéit au chef de meute qui coordonne la chasse, qui choisit la proie, commence par les faire courir pour voir lesquelles sont malades, c'est-à-dire boites ou etc., ou sont trop âgées ou trop jeunes, et puis tout le monde le suit, et ensuite et chacun fait son boulot, c'est une sorte de commando en fin de compte. Et ils ont des techniques qui ont été copiées d'ailleurs par les humains, en particulier les Mongols et les Indiens d'Amérique du Nord qui s'y connaissaient très bien en loup, alors qu'en Europe on connaît très mal les loups. Alors bon, on n'avait pas les crocs et les griffes des grands carnivores, mais on l'a remplacé par les capacités des armes. Au fur et à mesure que les hommes arrivaient à chasser de mieux en mieux, ils devenaient de plus en plus prédateurs, de plus en plus efficaces. Et ceux qui chassaient le mieux se reproduisaient, et ceux qui se chassaient mal étaient éliminés. Donc il y a eu une sélection qui a fait que le cerveau a augmenté en taille. Et puis ensuite, ça a permis d'obtenir des méthodes de chasse beaucoup plus fines, beaucoup plus efficace que celle d'un loup, parce qu'un loup, il a beau avoir un croquet et des griffes, donc être bien plus doué que nous, ne peut pas attaquer à distance. Il est obligé de prendre des risques. Alors qu'un homme qui a un javelot ou une pierre pointue, il arrive à tuer un animal à distance. Et en plus, par contre, on a une culture gigantesque, c'est-à-dire qu'on trouve des tas d'astuces et on a un langage qui est bien plus développé que celui d'un loup. C'est-à-dire qu'on peut transmettre des informations même plus fines, c'est-à-dire où se trouve l'animal, sans avoir à se déplacer, on peut dire où se trouve l'animal, qu'est-ce qu'il faut faire, à éduquer les autres, etc. Donc ça a permis une chasse bien plus efficace.
Ce savant éthologue, dont la spécialité a disparu, évoque une activité chargée de fantasmes pour ceux de la cité, la chasse. Je dois vous y préparer.
Thank you.
Piqué par la curiosité après le récit du contrebandier, je me suis replongé dans les affaires familiales, celles qu'on dissimule. Il s'y trouvait le journal intime d'un ancêtre, François, qui semble remonter à la génération d'avant la grande catastrophe. Il y mentionnait une cabane au bord d'un lac, une vaste étendue d'eau, où il avait construit une station émettrice. C'est depuis cette cabane que je diffuse aujourd'hui. Une carte en papier indiquait où se trouve la cabane. Mais nous, dans la cité, où étions-nous? J'ai dû travailler à comprendre l'usage de ces outils que François nommait boussole et sextant. Puis je suis parti en me guidant avec les étoiles. Ma mère m'y avait peut-être préparé en me nommant Sylvain et en me contant assidûment ce livre qu'elle avait appris par cœur, Le Baron Perché, qui a disparu avec elle. Je pensais donc me déplacer dans les arbres. Mais rien ne s'est passé comme je l'avais imaginé. Rien. Tendez l'oreille. Ne craignez rien. Écoutez sans peur et sans jugement.
D'atteindre les parties vitales de l'animal, donc c'est-à-dire cœur, principalement. Donc
le but, c'est d'essayer d'avoir l'animal dans une position. Là, on va pouvoir mettre la flèche dans cette zone-là. On va pouvoir atteindre cette zone-là. Donc, un tir de 3 quarts arrière, c'est l'idéal. Un tir de profil, c'est bien aussi. Pour pouvoir avoir accès à ces zones-là.
On a un nouvel avion. La flèche, elle traverse l'animal.
Tout dépend de la puissance de l'arc, de où la flèche tape, et bien sûr de la distance à laquelle l'animal est tiré. Bah, l'idéal, bien sûr, c'est qu'elle traverse pour qu'il y ait une hémorragie des deux et que le sang sorte des deux côtés. Mais des fois, ça arrive qu'elle traverse pas. Si vous tirez un sanglier de 130 kg, la flèche va avoir moins de chances de traverser que sur un chevreuil. J'ai une flèche, j'ai eu l'occasion d'armer, mais à chaque fois j'ai préféré m'abstenir de tirer parce que les conditions n'étaient pas idéales, soit l'animal était courant, soit j'avais pas un bon angle de tir ou j'avais de la végétation, donc j'ai préféré m'abstenir de tirer. Moi j'ai dit, mon premier animal à l'arc, je veux qu'il soit tué proprement.
Il y a un vocabulaire très particulier, c'est propre à la chasse à l'arc, parce que au lieu de dire de tuer, vous dites prélever.
Après, c'est le vocabulaire de la chasse qui a aussi évolué par rapport aux pratiques et à l'éthique de la chasse. On va dire que c'est plus politiquement correct de dire prélever un animal au lieu de dire le tuer, mais la finalité reste la même. Mais l'acte de chasse, c'est pas seulement tuer l'animal, c'est aussi tout ce qu'il y a avant et tout ce qu'il y a autour. C'est tout ce qu'il y a autour, le chercher, analyser la situation, réfléchir à son tir, tirer.
C'est aussi de partir en groupe, en meute. C'est une meute.
Ouais, on pourrait dire ça.
Les écoles ?
Un chevreuil, ouais.
Ouais, on a vu qu'ils sont en pleine.
Nous, en arrivant, en se postant, il y en avait deux. Ils sont partis là-bas sur les peuplaires.
Faites attention parce qu'il est parti le faire de l'autre côté.
Ok.
Pour revenir.
Et tout à l'heure, il y en a un qui est descendu là dans notre dos. Et chut, parti. Pas de sanglier. Hein, Bernard ? Pas de sanglier ?
Non, attends, non. C'est pas rien. C'est en bout là-bas.
Ouais, il y avait des traces tout à l'heure sur le chemin.
Ouais.
C'était pas vieux.
Hein ?
Les traces, c'était pas vieux ce qu'il y avait là-bas sur le chemin.
C'est en bout.
Alors, il y a eu un moment donné, vous nous avez dit, je sais plus comment vous l'avez formulé, mais vous nous avez dit de nous taire.
Ah, j'ai dit, bougez plus. Parce que j'avais entendu craquer, donc je croyais que c'était un animal qui est arrivé. Faut savoir que eux aussi, ils sont à l'écoute, et ils entendent beaucoup mieux que nous. En fait, c'est limite, on chasse avec nos cinq sens, en fait, c'est limite ça. On se met vraiment dans la peau d'un prédateur, et on écoute. Regarde, tous nos sens sont à la vue et il faut être très concentré pendant toute la chasse, quoi. Là, il commence à neiger.
Oh.
C'est de la neige fondue.
À l'arc meurt pas instantanément.
Je vais faire prendre David quand même. Il mérite bien ça, David.
Quand vous avez des animaux qui vous passent à l'arc à 1m50, bon voilà, vous le regardez, il vous regarde, c'est magique. C'est...
Moi, ne serait-ce que tout à l'heure, quand vous avez dit...
Bougez plus, j'ai dit.
Bougez plus, j'ai entendu ça, j'ai eu une sorte de décharge d'adrénaline.
Ah oui, mais c'est...
C'est étonnant, parce que c'est... Il ne se passait rien de spécial. Mais...
quand on est dans la chasse, on est concentré vraiment dedans, on est vraiment dans un mode chasse. Le moindre bruit, on est aux aguets et tout de suite, on a un sursaut, quelque chose qui nous prend. Enfin, tout à l'heure, le chevreuil qui est pas arrivé dans notre dos, je savais que c'était un chevreuil. Quand vous voyez l'animal arriver tout doucement vers vous, enfin, ça monte. Vous avez les mains qui tremblent et c'est... Enfin, après, quand vous la chasse, elle est finie, que tout retombe, vous vous dites, mais pff, c'était magnifique, quoi, c'était magique. Et on n'a qu'une envie, c'est de le revivre, quoi. C'est addictif.
L'Indien avait trouvé la femelle, gisant morte mais encore chaude, au milieu de la rivière, qui était si peu profonde que l'animal reposait sur le fond, un tiers à peine de son corps sortant de l'eau. Cela faisait environ une heure qu'elle avait été touchée par le coup de feu et elle était gonflée d'eau. L'Indien se mit à écorcher l'orignal avec son canif, tandis que je le regardais faire. Et quelle entreprise tragique ce fut de voir ce corps encore chaud et palpitant, percé par un couteau, le lait tiède s'écouler des mamelles déchirées, et cette affreuse carcasse rouge apparaître à nu, de dessous la robe pudique destinée à la cacher. Les forêts du Maine, de Henri David Thoreau.
Dans la cité, on n'a jamais vu d'animaux. Des rumeurs couraient depuis toujours. Autrefois, avant la grande catastrophe, la vivenda était issue des animaux. J'étais comme tous, incrédule. En fait, nous sommes quelques-uns à explorer la nature. Certains y vivent depuis plusieurs générations, ce sont des nomades. Ils conservent quelques précieuses traces de la mémoire collective, principalement des livres, dans lesquels ils apprennent à connaître les plantes. La grande catastrophe a effacé tout ce savoir indispensable dans la forêt. Il est considéré ici comme le plus précieux. Voici à ce propos un petit disque noir très endommagé.
Le jardin est organisé comment exactement ?
C'est un grand mystère. Vraiment, parce que effectivement, il y a deux logiques qui s'affrontent, comme un peu en nous-mêmes. Il y a une logique de compétition ou d'espace. J'ai envie de vivre, j'ai envie d'occuper un certain espace. Donc il y a des plantes qui développent des systèmes où elles empêchent les autres plantes de germer, où elles deviennent phytotoxiques, où elles font de l'ombre, où elles se développent. Mais il y a aussi, et ça a été beaucoup nié, et on se rend compte que c'est au moins aussi important, parce qu'à une époque, on a dit c'est ça. L'évolution, c'est ça, c'est la compétition, c'est la lutte entre les espèces, et c'est ça qui provoque l'évolution et qui permet l'évolution. Aujourd'hui, on se rend compte que la coopération est largement aussi importante. Et donc, il y a aussi, effectivement, tout un système de messages chimiques, olfactifs, qui sont envoyés entre les espèces. On sait aujourd'hui que dans une espèce, les individus sont capables de se prévenir s'ils sont broutés à distance, en envoyant des messages olfactifs dans l'atmosphère. L'ortie, qui est une plante qui n'est pas trop aimée, qui est un peu mal aimée des jardiniers et des agriculteurs, à côté d'une plante qui contient des huiles essentielles, elle va provoquer l'augmentation de sa teneur en huiles essentielles. Et quand une plante produit de l'huile essentielle, c'est pour se défendre en général. Mais on pense aujourd'hui que les huiles essentielles vont permettre effectivement de repousser quelques insectes brouteurs ou quelques, ce qu'on appelle les ravageurs dans l'agriculture classique. Donc en fait, en gros, elle va stimuler leur système de défense. Défense.
c'est en chassant que j'ai survécu. Oui, j'ai moi-même tué des animaux, et je m'en suis nourri. Cela, je sais, me vaudra d'être banni à jamais de la cité. J'ai pratiqué la prédation, prohibée pour des raisons morales. Et pourtant...
Donc la prédation a une fonction essentielle dans les équilibres écologiques. Est-ce que vous avez un exemple? Je crois que c'est le parc de Yellowstone.
Oui, bien sûr, c'est le premier parc qui a été créé dans le monde. Et donc, le parc de Yellowstone, il y avait des loups. Les Américains ont commencé par les zigouiller en se disant c'est bon pour les herbivores qui vont se trouver en meilleure santé et qui vont être heureux, etc., sans prédateurs. Et c'est parti d'un esprit un peu simpliste, mais enfin, on élimine les mauvais, on n'aura que les bons. Et au début, ils sont partis de cette idée, et puis ils se sont aperçus qu'au contraire, c'était l'inverse qui arrivait. C'est-à-dire que quand ils ont zigouillé tous les loups, dans ce parc sans loups, eh bien, les herbivores devenaient trop abondants, d'une part, donc il y avait des famines. Ils liquidaient complètement les herbes et même ils allaient au-delà, c'est-à-dire comme ils crevaient de faim, ils mangeaient même les feuilles et donc ils détruisaient toute la couverture du sol, mais ils détruisaient même les feuilles des arbres. Et donc ils ont complètement détruit l'écosystème, c'est-à-dire que par exemple les castors qui étaient au bord de la rivière, ben, ils n'avaient plus d'arbres, les oiseaux n'avaient plus d'arbres non plus, donc ils étaient obligés de partir. Donc on s'est rendu compte qu'en réalité un super prédateur, contrairement à ce qu'on croyait, c'est pas en plus, c'est une clé de voûte. C'est-à-dire que tout le système repose sur lui. Et donc, quand on a réintroduit des loups, d'un seul coup, ça s'est régulé en quelques années. C'est-à-dire que, curieusement, les herbivores ont été en meilleure santé parce que les loups liquident tous les herbivores malades et donc les épidémies ne peuvent pas se transmettre. Deuxièmement, ils régulaient les populations et donc les herbivores ne pouvaient plus être en surnombre. Et donc, on s'apercevrait qu'en réalité, en les réintroduisant, ça permettait de remettre en marche le système. Et même la proie, c'est ça qui est curieux, contrairement à ce qu'on pensait au départ, la proie est avantagée par la présence du loup, ce qui n'était pas du tout prévisible.
La prédation ne serait donc pas la cause de la grande catastrophe, comme le prétend l'explication officielle.
Qu'est-ce que le passage du nomadisme au sédentarisme a changé dans notre rapport à la prédation?
Ah oui, ben, tout. En fin de compte, quand on est passé du chasseur-cueilleur, c'est-à-dire du nomadisme, à la sédentarisation, c'est-à-dire l'agriculture et l'élevage, on a changé complètement notre rapport à la nature. D'ailleurs, à mon avis, le début de la fin, c'est-à-dire que c'est là que commence à déraper, à mon avis. Jusqu'à présent, on était en équilibre avec le milieu, et donc on s'adaptait aux proies qu'il y avait dans le milieu, ou simplement aux végétaux qu'il y avait dans le milieu, et donc on se déplaçait continuellement. Pourquoi ils faisaient ça? C'est pas pour le plaisir de promener, c'était simplement parce qu'il fallait que quand ils avaient tué pas mal de bestioles, ou qu'ils avaient récolté pas mal de fruits naturels, champignons, ou je sais pas quoi, ou de poissons, ils partaient et ils avaient un circuit qui était énorme, qui faisait parfois un an. Et au bout d'un an, tout était renouvelé. Mais par contre, dans la mesure où vous restez au même endroit et où vous exploitez une terre par l'agriculture et l'élevage, vous ne pouvez plus être en équilibre. Et surtout, vous dépensez beaucoup plus d'énergie, c'est-à-dire que vous êtes obligé de passer deux fois plus de temps que les chasseurs-cueilleurs. Les chasseurs-cueilleurs, ils passaient à peu près 3 heures par jour à travailler, alors que nous, c'est plutôt le double, sinon plus. Et ça change aussi la démographie. C'est-à-dire que dans la mesure où vous changez de système de prédation sur la nature, ben vous avez tellement plus d'apports de nourriture que vous, d'une part, vous pouvez mieux nourrir vos enfants, et deuxièmement, la femme n'est pas bloquée par le nomadisme à trimballer ses gosses, et donc elle peut avoir un enfant chaque année, alors qu'avant elle était obligée d'avoir un enfant de 4-5 ans.
Genèse 1, 28. Fructifiez et multipliez-vous et remplissez la terre. Vous serez un objet de crainte et d'effroi pour toutes les bêtes sauvages et pour tous les oiseaux du ciel, pour tout ce qui rampe sur le sol et pour tous les poissons de la mer. Entre vos mains, ils sont livrés. Entre vos mains, ils sont livrés.
Mais voici ce que nos semblables faisaient subir aux animaux. Je dois vous alerter, ce disque noir est inqualifiable. Je suis moi-même resté sidéré plusieurs heures après son écoute.
Thank you. À la fin du 19e siècle, les abattoirs industriels voient le jour à Chicago. Ils seront une source d'inspiration pour l'industrie automobile et pour la solution finale. On estime aujourd'hui à 1900 par seconde le nombre d'animaux qui y trépassent, soit 60 milliards d'animaux tués chaque année.
Arrêtez là. Alors, utopie de la fin de la prédation, numéro 72. Voilà, écoutez celui-ci.
Dans la civilisation dans laquelle on vit depuis des milliers d'années, et vous le retrouvez déjà dans la Bible, croissez, multipliez, exploitez la nature, etc., vous êtes déjà dans une société qui élimine tout ce qui est autour d'elle. Donc l'animal est un inférieur qu'on peut exploiter, et il ne faut surtout pas être proche de lui, parce que si on est proche de lui, on va avoir du mal à le tuer. Donc c'est logique qu'on en soit arrivé à cette culture occidentale qui fait que l'animal est considéré comme un idiot et que l'homme est considéré comme un génie. En réalité, c'est même pas scientifique, on n'a même pas besoin de poser des problèmes éthiques ou philosophiques. C'est pas scientifique, les animaux sont tout à fait intelligents, tout le monde le sait. Enfin, moi, tous ceux qui travaillent sur les animaux. Et l'homme est parfois peu raisonnable. La preuve, c'est qu'actuellement, il se trouve dans des problèmes qu'il ne sait pas résoudre. Donc en réalité, il y a un gradient. C'est vrai que l'homme est plus intelligent que les autres animaux, qu'il a un langage plus développé, mais il est limité. La preuve, c'est qu'il n'arrive pas à se rendre compte que l'accroissement indéfini de la population, ça peut pas, dans un monde fini, c'est pas possible. Donc en réalité, la position qu'ont eu les sociétés dont on est issu, et en particulier le christianisme, ça a été une position d'éleveur. Et d'ailleurs, vous remarquerez, dans les éleveurs à l'ancienne, ils ne donnaient pas de nom à ceux qu'ils allaient tuer. Ils ne donnaient des noms qu'à ceux qu'ils allaient garder. Parce qu'il ne fallait pas s'en rapprocher. Et en plus, vous voyez que les religions, les trois monothéismes, l'islam, le judaïsme et le christianisme, sont des religions de bergers du désert. Donc la nature, ça n'existe quasiment pas. L'animal, il est là pour être tué. Et donc, l'homme est complètement détaché du reste. Et en fin de compte, on comprend qu'il fallait se séparer, être au-dessus, avoir une hiérarchie où on se trouvait, où l'homme était au-dessus de la nature et de l'animal. Par contre, quand la révolution qui est en cours et qui a donné les véganes d'ailleurs, c'est qu'actuellement, bon, on n'a plus besoin d'animaux de travail. Mais par contre, on a des animaux de compagnie de plus en plus. Et alors là, comment voulez-vous accepter que l'animal de compagnie soit un être inférieur, complètement idiot, qui ne comprend rien alors que c'est un ami? Donc vous voyez bien que, bon, même s'il est moins malin que vous, il est tout à fait capable de raisonner, donc de comprendre.
Vous voyez, là, il y en a une qui est née il n'y a pas très longtemps. Vous, là, peut-être. Elle a un mois. Sa mère.
Elle est grosse comme un labrador, quoi, même pas.
Un labrador, c'est plus gros ça, un mois, non?
C'est ça. Elle est minuscule. Elle est d'une beauté, les yeux, là. La petite truffe toute brillante. C'est une petite femelle?
Ouais. En fait, c'est ce qui est resté de la ferme de mes grands-parents, les terres qui sont ici, quoi. Alors, comme j'ai pas énormément de surface, c'est pour ça que les animaux de petite taille, ça va très bien. Donc, les veaux, je fais même pas du veau, comme on dit, du veau sous la mer. C'est Inès, ils restent avec leur mère... C'est ce qu'on appelle du broutard, quoi. Ils sont au champ, font leur vie, quoi.
Est-ce qu'elles ont des prénoms?
Donc oui, les deux, elles ont un prénom. Ils les avaient baptisés, ils les avaient nommés baptisés. Schtroumpfette et Caramel. Voilà. Mais après, elles n'ont pas toutes des noms. Les derniers que j'ai eues, j'aurais pas donné de nom. Alors là-bas, au fond, qui fait la tronche, qui est enfermée, c'est le taureau. Hey, jeune homme, tu viens nous voir?
Il a quel âge?
7 ans.
Mais donc lui, a priori, il va éviter...
Non.
Non ?
Je vais regarder son fils, en fait. Qui est là, derrière.
Il va être vraiment très beau. Et là, pour l'instant, cette année, j'ai décidé de réduire parce que je n'avais pas la possibilité de faire comme je l'entends.
De faire partir 2-3 anciennes en réforme.
Donc quand vous dites en réforme,
ça veut dire qu'elles vont aller dans le frigo.
Vous arrivez vraiment à pas avoir d'attachement pour... Parce que vous en parlez quand même... Enfin, vos bêtes...
Ah mais je les aime bien, il n'y a aucun souci. Je fais attention que tout se passe bien tant qu'ils sont avec moi. Mais après, moi je sais quelle est leur finalité, c'est d'être consommé. Et ce qui m'incombe moi, c'est que le jour où on a décidé que c'était le jour de leur mort, il faut que ça se passe très bien, quoi. Et si ça se passait mal, que ça me poserait problème, là, c'est clair. Parce que là, j'aurais fait tout ce que je peux pour qu'ils aient une vie agréable. Et là, de les voir être chargés dans une bétaillère, voilà, le stress du transport, on dit, mais qu'est-ce qui m'arrive, en gros, qu'est-ce qui se passe, quoi. Donc ça, non. Tandis que là, quand on le fait, on arrive, vous voyez, par exemple, là, boum, elle tombe par terre, terminée, quoi. Dans le champ ou à l'étable. Faut pas se dédouaner des choses. Moi, je participe hein, quand il faut le faire. Hein. Je pars pas faire un tour. Hein. Il faut que ce soit fait par une personne qui sait faire, qui a les compétences pour le faire, de manière à ce que ça se passe dans une bonne condition pour l'animal. Qu'ils aient une vie la plus digne possible, voilà, qu'ils aient accès à ce dont ils ont besoin. Mais après, quand le jour est venu de s'en séparer, il n'y a pas de problème. Moi, ça ne me pose pas de problème. Là, ici, quand on le fait, ils sont abattus sur place et ils ne voient pas leur fin de vie arriver, quoi. Et après pour la découpe, et je fais venir un boucher. Parce que là c'est pareil, on s'improvise pas. De manière à ce que voilà, toutes les étapes soient bien respectées et qu'au niveau de l'animal, que sa mort n'ait pas été vaine. Enfin je veux dire que tout doit être consommé. Quoi. On ne gaspille pas, on en mange moins, mais on mange tout.
Les petites vaches, on peut les approcher ou pas?
Ça m'étonnerait que vous puissiez mettre la main dessus. Off. Oh. Ça va. J'en ai une qui vient me voir à chaque fois quand elle est prête à veiller, parce que je l'ai aidée une première fois. Et depuis, elle a gardé l'habitude, même si elle arrive à le faire toute seule, elle aime bien que je sois dans le coin. Et après, elle me le rappelle, elle gueule.
Elle vous
appelle. Je suis à côté, j'attends que ça se passe. Ça doit la rassurer.
C'est donc des races à viande?
Bon, cette année, vu que moi j'avais fait le choix de l'abattage à la ferme et qu'au niveau de la loi ça n'a toujours pas évolué, donc là déjà je dois aller faire un tour chez le procureur, mais je ne sais pas quand. Donc cette année j'ai pas fait d'abattage. Et donc j'entends bien pouvoir continuer mon activité et mes animaux n'iront pas à l'abattoir. Donc j'ai été voir différents organismes qui régissent un peu tout ça. Alors, tout le monde vous dit oui, on comprend bien votre démarche, mais vous avez raison, mais en même temps on ne pouvait pas le faire. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Alors par contre, maintenant, ce qui fait un peu avancer les choses, c'est le modèle suédois qui, lui, a été validé par la communauté européenne. Donc là, c'est une grosse structure, c'est un abattoir roulant, quoi. Donc en France, il y a des éleveurs qui sont organisés, c'est en train de se mettre en place. Et après, nous, on travaille sur un autre type d'outil, mais en fait, de toute façon, à partir du moment que ça sera autorisé pour les uns, on verra bien comment il ne prend pas autorisé pour les autres, quoi.
Mais pour vous, le souci principal, c'est la qualité de la viande ou c'est la qualité de vie de l'animal?
C'est la qualité de vie de l'animal, c'est la, on va dire aussi la qualité de la fin de vie de l'animal. Et à la finale, derrière, bien sûr, que le consommateur ait accès à un produit de qualité. Hey, ça va. Je faisais le repas à la ferme auparavant pour les gens qui me prenaient de la viande. Et ils avaient un peu la même réaction que vous quand ils voyaient les petits, ils disaient « Ah oui, quand même !» Donc c'était un double tranchant le repas à la ferme. Ça leur permettait de voir que le discours que je leur tenais, c'est bien ce qui se passait sur place, le cadre de vie des animaux, comment ils étaient élevés, le lieu dans lequel ils vivaient. Et après, les gars, il y a du veau, c'est la période, là, il y a des paquets de 5 kilos disponibles, c'est pour qui? Sur son lieu de vie ou après dans son assiette, mais entre, tout le monde s'est dédouané de tout, quoi, en fait. Hein.
Vous connaissez un peu l'histoire des abattoirs, non? Les abattoirs de Chicago, tout ça,
là. Oui, un peu, oui, bah oui.
industrialisation de l'abattoir fait suite à l'industrialisation de l'élevage. Hein. Tout se tient. Hein. T'affoles pas la pépette, on repasse. C'est open bar ici pour les renards et les busins. C'est... Je suis devenu la cantine, quoi. Déjà, c'est une forêt, c'est habité, hein, voilà. La forêt est habitée et elle n'est pas habitée que par des herbivores. On est dans un monde qui fait qu'il y a les mangeurs et les mangés. Voilà. Donc c'est dans la nature des choses. Donc après, ça va être compliqué de faire passer des carnivores en herbivores chez les animaux si c'est dans l'optique de certains esprits. Et donc, il faut accepter qu'il va y avoir de la perte. Sinon, il faudrait tout électrifier, grillager sur les côtés, dessus, dessous. On n'en finit plus, quoi.
Pourquoi vous n'avez pas de chien ?
Mais j'avais des chiens. Ils sont morts. Et donc là, j'en ai un qui arrive la semaine prochaine. J'en ai repris un. J'ai passé une année sans chien. Donc là, je vais reprendre un chien parce qu'ils ont vite compris qu'il n'y avait plus de chien. Le reste des animaux. Voilà. Il a sa place. Qu'il aille pisser un peu partout, ça, le renard va savoir que il y a un chien qui est sur place et qu'il faudra qu'il soit beaucoup plus prudent. Quoi.
Ici, dans la forêt, la prudence est la règle. La prudence et la vigilance. Nos oreilles ne sont pas submergées par le vacarme des usines qui recyclent à l'infini les déchets d'avant.
Mais que se passerait-il si les sociétés humaines décidaient d'interdire la chasse et l'élevage et de donner des droits aux animaux de compagnie ?
Ouf. Oui, oui. Oui, mais si vous devenez végétarien, vous n'avez pas de raison d'élever des animaux domestiques. Donc, dans les campagnes, il n'y a plus de vaches, il n'y a plus tout ça, il n'y a plus de moutons, et tout ça disparaît. Donc, c'est notre monde. Et par contre... Mais la nature, elle s'équilibre toute seule. C'est-à-dire que si, par exemple, vous laissez les sangliers, les cochangliers exister dans la nature, et que vous laissez parallèlement les loups augmenter en France, ben c'est la proie favorite du loup, c'est le sanglier. Donc vous allez vite réguler le problème. Par contre, si la population continue d'augmenter, le végétarisme sera devenu obligatoire. C'est-à-dire que seuls les gens riches auront accès à la viande.
Donc on peut imaginer que si on arrêtait de tuer les sangliers et de les réguler, il faudrait sans doute protéger les cultures avec, je ne sais pas, des murs, des fils barbelés. Et si on relâchait les chiens, qu'il y avait des chiens sauvages, ou en tout cas que le nombre de loups augmentait, est-ce qu'on finirait par revenir à un moment où on n'aurait plus accès à la nature ?
L'homme retrouverait alors sa place initiale dans le vivant, une proie possible, puisqu'il a renoncé à sa place de prédateur.
Le vent vient de tomber. Et la petite éolienne qui m'alimente va bientôt cesser de fonctionner. Je reviendrai vers vous plus tard, le temps que tous ces éléments de discernement aient décanté dans vos ventres et vos esprits. Mais pour que ce processus ne soit pas sans espérance, je voulais vous donner à entendre ce dernier disque. François en a pris un soin tout particulier en le couvrant d'un tissu précieux. Utopie de la fin de la prédation, numéro 104.
Le grand chef qui est à Washington nous a envoyé un message. Disons qu'il veut acheter notre terre. Comment peut-on acheter ou vendre le ciel, la chaleur de la terre ? Cette idée nous semble étrange. La fraîcheur de l'air et le scintillement de l'eau ne nous appartiennent pas. Chaque parcelle de cette terre est sacrée pour mon peuple. Nos morts à nous, nos morts n'oublient jamais cette terre si belle. Car elle est la mère des hommes rouges. Nous faisons partie de la terre et elle fait partie de nous. Les fleurs parfumées sont nos sœurs. Le cerf, le cheval, le grand aigle, ceux-là sont nos frères. Tout cela appartient à une même famille. Nous voyons bien que l'homme blanc ne comprend pas nos voix, Il traite sa mère, la terre, et son frère, le ciel, comme chose pillable, corvéable et vendable, au même titre qu'un mouton de la verroterie. Son appétit dévorera le monde, ne laissant dans son sillage qu'un désert. Dans les villes de l'homme blanc, il n'y a pas de coin tranquille. Nulle part on ne peut écouter bruire les feuillages du printemps ou le froissement d'ailes des insectes. Mais peut-être est-ce seulement que je suis un sauvage et ne comprends pas. Le fracas me semble insulter les oreilles. Et qu'y a-t-il dans la vie d'un homme s'il ne peut écouter le cri solitaire d'un engoulevent? Je suis un homme rouge et je ne comprends pas. L'air est précieux à l'homme rouge parce qu'il sait que toute chose partage le même souffle, la bête, l'arbre et l'homme. J'ai vu 1000 bisons pourrir sur la prairie, abandonnés là par l'homme blanc qui les avait abattus au fusil par les fenêtres d'un train en marche. Je suis un sauvage et je ne comprends pas comment le cheval d'acier fumant peut être plus important qu'un bison que nous ne tuons, nous, que pour rester en vie, et seulement pour cela. Qu'est-ce que l'homme sans les animaux? Si toutes les bêtes disparaissaient, l'homme mourrait d'une grande solitude de l'âme. Car tout ce qui advient aux bêtes advient bientôt à l'homme. Toutes les choses sont liées. Nous savons ceci. La terre n'appartient pas à l'homme. Mais l'homme appartient à la terre. L'homme n'a pas tissé la toile de la vie. Il n'en est qu'un des brins. Les dégâts qu'il fait à la toile, c'est à lui-même qu'il les fait.
Je suis donc en train de devenir un sauvage. Et je ne compte pas le fuir. C'est ici qu'est ma place, dans la forêt. Dans la cité, la vie est sans fracas, mais aussi sans saveur. Entendez-vous les sons vivants du monde ? Retour dans les bois. Sur ces disques noirs, vous avez entendu Martin Page, écrivain. Pierre Jouventin, éthologue. Audrey Fabry, chasseresse. Thierry Thévenin, paysan herboriste. Stéphane Dinard, éleveur.
Et Benjamin Lazare, dans le rôle de l'homme des bois.
Et les musiques de Sylvain Olivier.
Merci à Éric Delavenne et David Godard de la Fédération française de chasse à l'arc, à Caroline Brousseau, Caroline Dumas et Jocelyne Porcher du collectif Quand l'abattoir vient à la ferme. Archivina, Marthe-Laurent Clotilde. Prise de son, Nicolas Mathias, Romain Lukens. Mixage, Claude Niort. Attaché d'émission, Inès De Bruyne. Production, coordination, Irène Omelianenko. Une création en air de Franck Toraval, réalisée par Gilles Mardi-Rossian.
Cette émission est disponible en podcast et réécoute sur le site de Création On Air. Demain, à 23h, ce seront Sécrétions indiscrètes par Aurélie Thian et Christine Robert. Mais d'abord, place à la magie des nuits de France Culture avec Philippe Garbi.